Yolande Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Mosaïque avec Chantal Matelet pour les catholiques, avec Jean Bodvinic pour les juifs, avec Catherine Bianchi pour les protestants, avec Mimoun Enbati pour les musulmans. Et nous enregistrons dans ce début des vacances de juillet l'émission qui va passer au mois de septembre, ce qui va expliquer peut-être certaines allusions, d'une part à l'actualité et d'autre part à la marche mosaïque qui a eu lieu dimanche dernier. Mimoun, vous nous parlez de la marche mosaïque ?
Oui, c'est la quatrième marche mosaïque.
Rappelez aux auditeurs ce que c'est, parce que alors, certains ne savent pas.
La marche
c'est à Dreux.
C'est à Dreux. Ça se passe autour de l'étang de Mézières et Cluzel, en Eure-et-Loire. Et fait un parcours qui fait à peu près 5 km. C'est entrecoupé d'étapes. Donc tout le monde est invité, quelle que soit sa confession ou ses croyances.
Et son absence de croyance d'ailleurs
tout
aussi.
Tout à fait, absolument. Et c'est accompagné d'un petit quiz, et ce quiz cette année était autour du Tour de France.
Et alors le Tour de France, effectivement, parce que ça permettait à tous de pouvoir se parler, puisqu'en fait c'est ça l'objectif de cette marche.
Absolument, tout à fait, c'est de rencontrer d'autres personnes, pouvoir répondre aux questions qui sont posées sur les quiz, et échanger les uns les autres, se questionner. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer une professeure d'une école à Dreux qui avait quelques questions à poser concernant les musulmans auxquelles j'ai répondu, et je pense qu'elle était très satisfaite de nous avoir rencontrés ce jour-là, et moi aussi. Et c'est un événement qui, je pense, qui va s'ancrer dans le temps. Il va peut-être prendre d'autres formes. Bon, c'est vrai qu'il a fait un peu chaud ce dimanche-là.
J'ai trouvé cette année que beaucoup de musulmans se sont joints à nous.
Oui, il aurait pu en avoir un peu plus.
J'ai beaucoup dialogué avec des personnes que je n'avais jamais rencontrées et qui étaient très ouvertes, qui interrogatives, qui cherchaient à apprendre et à connaître. Et vraiment, c'était très riche, très très riche. Et je trouve bravo aux personnes qui ont travaillé sur les petits questionnaires, le quiz, comme dit Mimoun, mais les mots croisés ou les questionnaires, ça... Il y a eu beaucoup d'échanges entre nous, quelles que soient les confessions, et c'était très chouette.
Oui, alors sur le Tour de France, mais après aussi qui nous étions, pour ce qu'on faisait.
Absolument.
C'est ça aussi,
oui,
c'est qu'en
oui,
fait
oui.
Le Tour de France est un peu le prétexte.
Apprendre à se connaître dans chaque religion, dialoguer, savoir de quelle paroisse on faisait partie ou quelle communauté, et c'était intéressant.
Et de partager un goûter.
Succulent.
Abondant.
Abondant.
Royal de plus en plus. Avec de la glace même.
Avec de la glace, oui. Des boissons fraîches, des gâteaux qui venaient un peu de tous les pays.
Oui. Et même, puisque ça va être un des sujets dont on va traiter, un couple qui s'occupe de l'accueil de réfugiés afghans qui ont participé. Et quand je dis des réfugiés, c'est toute une famille, parce qu'il y a la grand-mère, le père, je pense que la maman n'était pas là ce jour-là, mais il y a la petite fille, donc je veux dire que voilà, l'intégration, l'échange, la fraternité.
Donc, une démarche qui permet de se rencontrer et peut-être de faire tomber les préjugés, parce que finalement, c'est bien l'ignorance qui est l'ennemi de tous. Le fait d'imaginer des choses sur l'autre est quelque chose de dramatique, parce que finalement c'est ça qui alimente tous ces préjugés. Alors vive la marche mosaïque, mais on va peut-être passer à autre chose. Dans l'actualité, vous aviez prévu autre chose?
Moi, j'aurais voulu rendre hommage à deux Français, en l'occurrence ce sont des pilotes d'avion, qui ont pris leurs économies pour acheter un petit avion pour aller survoler la Méditerranée et alerter les secours lorsqu'ils voyaient des réfugiés sur les fameuses barques ou ce qu'on appelle les boat people. Et franchement, j'ai été très touché par cette démarche. Deux personnes qui investissent leur propre économie pour aller sauver l'étranger. Je n'en connais pas. Et un avion, ça coûtait 130 000 euros. Plus après, faut qu'ils volent, faut mettre le gasoil, l'entretien, du kérosène.
Oui, sans doute.
Je ne sais pas combien ça coûte le litre de kérosène, mais ça doit être un certain
prix. Moins cher que l'essence, mais enfin.
Voilà, donc moi je tire mon chapeau à ces deux personnes, j'oublie leur nom. Et ça a été paru dans l'article du Monde du mois dernier. Et je leur dis chapeau. Voilà.
Donc là, ça nous met en relation avec la question des migrants, puisque le thème que nous voudrions aborder aujourd'hui, c'est la question des étrangers et de nos relations avec eux, puisque de fait, il y a un certain nombre de points d'actualité, et notamment la législation qui, par certains aspects, va supprimer le délit de solidarité, mais par d'autres aspects, peut-être ne pas être aussi ouverte qu'on pourrait l'espérer. En tout cas, je pense que c'est un peu l'avis de ceux qui sont autour de cette table.
Absolument. Et justement, cette émission passe au mois de septembre, mais début juillet, il y a eu une décision du Conseil d'État pour que soit introduit dans la Constitution le terme « fraternité ».
C'est quand même la devise républicaine.
Comme la devise républicaine.
L'obligation de fraternité.
Et que l'obligation de fraternité pour respecter la devise républicaine et que ce n'est pas un délit. Et que le...
Donc venir en aide aux étrangers, fussent-ils sans papier,
n'est pas un délit. N'est plus un délit. Et justement,
en justice.
Si ça passe par la fraternité.
Voilà.
Si ça passe par la fraternité.
Il ne faut pas que ce soit fait par intérêt.
Ah oui.
Il ne faut pas que ce soit fait par intérêt.
Oui, je suis naïve. Oui, bien sûr. Il y a toujours,
c'est mentionné. Hein. Ça peut...
Oui, absolument.
Pas par intérêt, quel qu'il soit.
Absolument.
Les passeurs, ils ne font pas preuve de fraternité. Hein. Faut qu'ils font payer, je ne sais pas combien de milliers d'euros aux pauvres gens.
Je suis d'accord. Je suis encore trop.
Cela, c'est un délit.
Bon, alors, on poursuit notre tour de table.
Il y a aussi Madame Veil.
Vous vouliez parler de Madame Veil, oui.
Qui vient d'entrer...
Qui vient d'entrer au Panthéon.
Avec son époux, d'ailleurs.
Et ça, c'est intéressant parce que jusqu'ici, la seule femme qui était là était entrée à cause de son époux. C'était Madame Berthelot. Et maintenant, c'est l'inverse.
Elle a été définie comme une bonne épouse dévouée à son mari Berthelot.
Voilà. Et Monsieur Veil a été un bon époux dévoué à la cause. D'ailleurs, il a fait abnégation, il voulait faire de la politique, et il a fait abnégation en voyant que sa femme allait être plus pertinente peut-être que lui. Et il l'a toujours soutenue apparemment. Et Madame Veil a toujours dit que c'était avec son mari qu'elle...
Il l'a aidé à rédiger son texte, son projet de loi pour l'interruption de grossesse.
Oui.
Il était à ses côtés.
Pense Monsieur Bodvini, parce que vous étiez médecin, vous, donc l'interruption de grossesse, effectivement, est-ce que ça a été quelque chose qui a vraiment marqué dans le domaine médical?
Oui, ça a beaucoup marqué, parce que jusqu'à la loi Veil et son application en janvier 75, il était donc interdit d'avorter sous peine de sanctions, à la fois pour les dames, dont la pire a été faite pendant la guerre, et pour les avorteurs ou avorteuses. Non seulement il était interdit d'avorter, mais il était également interdit de conseiller, de donner des adresses à l'étranger, puisque ça se pratiquait depuis un certain temps en Belgique, en Angleterre, en Espagne, et ça tombait également sous le coup de la loi. Donc dans mes études de spécialité avant 1975, j'ai vu... passé dans le service où je travaillais des gens qui ont fait des tentatives d'avortement, et en particulier une jeune femme, mère de un ou deux enfants, qui avait 30 ans et qui est décédée des suites de son avortement, des suites infectieuses de son avortement. J'ai été profondément bouleversé par ce travail-là, de refuser les gens, de ne pas les conseiller, et également de les fliquer, car on leur demandait, si vous êtes Si vous avez fait des manœuvres abortives, vous risquez donc des infections. Il faut qu'on vous donne des antibiotiques. Si vous ne l'avez pas fait, évidemment, ce n'est pas la peine de prendre des antibiotiques, de vous donner des antibiotiques. Et donc, on insistait lourdement pour savoir si elles avaient fait des manœuvres ou pas des manœuvres, sous peine de leur donner ou ne pas leur donner. On était des...
Est-ce que les médecins étaient des flics? Parce que finalement, je pense que l'éthique médicale devait être plutôt de servir les gens et pas forcément de servir la loi.
Oui, mais de toute manière, on avait l'impression de servir les gens, puisqu'effectivement, on allait leur donner ou pas leur donner, parce que les fausses couches spontanées, ça existe aussi. Et donc, une fausse couche spontanée, on ne lui donne pas d'antibiotiques. Par contre, un avortement provoqué, vu les conditions sanitaire, d'asepsie qu'on ignore comment ça a été fait, il était nécessaire effectivement de les couvrir avec une antibiothérapie, et la plupart des gens qui sont morts de ça, d'infection. Et donc la loi Veil pour moi a été une délivrance, et je dis bien pour moi. Et quand je suis arrivé à Dreux en 1974, et à partir de la loi Veil, j'ai pratiqué les avortements. Donc j'ai vu la détresse des gens.
Et vous avez sauvé des femmes.
J'ai vu la détresse des gens, exactement comme l'a dit et l'a décrit Mme Veil lors de son discours à l'Assemblée nationale. Et je me rappelle des réflexions de gens, d'amis, qui catégorisaient les avortés. C'est la petite jeune fille, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est une malédiction de tomber enceinte. C'était une malédiction pour beaucoup de monde, puisqu'il y avait des centaines de morts tous les ans en France. Il y a encore à l'heure actuelle, d'officiel, depuis la loi Veil, 200 000 avortements par an. Donc c'est vraiment une malédiction, malgré la contraception.
Parce que la contraception maintenant, en plus, elle est plus facile. Par la sécurité sociale, en plus.
Elle est non seulement remboursée, mais il y a beaucoup de moyens pour éviter la grossesse. Bon, ceci étant, l'humain est ce qu'il est. Donc il y a toujours beaucoup de ratés, et il y a donc 200 000 ratés par an en France. Donc l'avancée pour moi de la loi Veil a été très importante, mais les médecins, dans la loi, avaient leur clause de conscience. Et cette clause de conscience a fait que énormément de médecins, de chirurgiens, n'ont plus su faire de curetage. Il n'était plus question de leur demander de faire un curetage ou d'avorter. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé avec des gens qui disaient « je ne sais pas faire un curetage », alors que, bien sûr, les chirurgiens avaient appris à faire des curetages. Mon expérience est drouaise.
Oui.
Donc l'avancée pour les femmes de Madame Veil et de la permission de la contraception par le général de Gaulle, un petit peu avant, c'était deux avancées majeures dans la vie normale d'abord des femmes et des couples. Et c'est ainsi que les hommes qui demandaient à leurs femmes de se débrouiller toutes seules ont été un petit peu mis en cause. Voilà mes souvenirs de la loi Veil. Elle a été effectivement panthéonisée début juillet, et à la fois comme dame qui a lutté pour les femmes, mais également qui a lutté pour l'Europe, et comme ancienne déportée, on peut dire qu'elle a fait pénétrer la Shoah dans le Panthéon.
Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui était très très présent dans cette démarche.
Absolument. Et à côté, enfin pas loin, des plaques des Justes, qui ont été apposées aussi au Panthéon en présence de M. Jacques Chirac et de Simone de Veil il y a quelques années. Et donc la Shoah dont le mot a été trouvé par Claude Lanzmann, qui nous a quittés il y a quelques jours.
Oui, alors nous enregistrons l'émission justement au moment où nous avons appris aujourd'hui la mort de Claude Lanzmann.
Début juillet, Claude Lanzmann, qui n'a pas pu supporter le terme américain d'holocauste, car un holocauste est un sacrifice. Les juifs ne se sont pas sacrifiés, ils ont été tués, c'est pas tout à fait la même chose. et le mot Shoah en hébreu, parce que c'est de l'hébreu le mot Shoah, qui était interdit d'utilisation pendant des années à l'éducation nationale. Même une professeure qui a été condamnée ou expulsée de son poste de Nancy, si je me rappelle bien, pour avoir utilisé le mot Shoah dans ses cours. Le mot Shoah est un mot hébreu qui veut dire, grosso modo, catastrophe. Et à propos toujours de la Shoah, j'ai trouvé que début juin, le pape François, on est dans une émission interreligieuse, a envoyé un message à l'archevêque de Berlin, qui s'appelle Monseigneur Erner Koch, et il a dit la chose suivante dans son message: « Jamais ne doit cesser le souvenir de l'atroce violence de la Shoah, de l'indicible douleur et de l'extermination d'un peuple. » Et il a dit ça, il a envoyé ce message pour la première d'une symphonie qui s'appelle « La souffrance des innocents » qui a été composée par un compositeur appelé Kiko Argelo. Et donc, à cette occasion, le pape François a envoyé ce message.
Alors, c'est un peu loin de la question des étrangers, mais finalement, cela renvoie quand même à cette question qui reste importante, c'est... Comment on entend cette injonction de Dieu qui nous demande à la fois de l'aimer lui et d'aimer l'autre, puisque le visage de Dieu, on ne le connaît pas, et le visage de l'autre, on le connaît, et que l'autre, c'est aussi le visage de Dieu. Donc là, il y a ce rapport à l'étranger, alors que nos religions nous proposent de reconnaître l'altérité et d'aimer l'autre.
Je crois qu'il faut considérer, moi je considère que tout être humain doit être respecté et entouré, quelles que soient ses convictions, ses origines, il est précieux, il faut le respecter et l'aimer, moi je le trouve. Voilà. Aimer son prochain qui est en face de vous avec une Kalachnikov ou des bombes, je ne sais quoi. Bon. Pose un problème, mais tout réfugié qui a besoin d'aide doit être secouru, doit être aidé.
On peut poursuivre peut-être avec cela, puisque parmi les autres nouvelles, on a évoqué le cardinal Torrent, qui est décédé, dont on a appris le décès aujourd'hui, et qui posait la question du dialogue interreligieux. Et là, je cite, il est président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Et son expression, c'était que tous les croyants soient facteurs de cohésion sociale. Alors, à un moment où, de fait, c'est la peur de l'autre qui régit les relations, peut-être on peut revenir à cette question. Non pas avoir peur de l'autre, mais peur pour l'autre, pour que vive, de fait, la fraternité. Alors là, je crois que vous avez des choses à nous dire, monsieur Botvinnik, parce que...
Pas travailler particulièrement sur le migrant, mais sur la conception que le judaïsme a de l'étranger.
Je crois que de toute façon, ça me paraît tout à fait important d'évoquer ces questions et puis de poursuivre.
Alors, il est naturellement impossible de parler en quelques minutes de l'étranger dans le judaïsme, dont d'ailleurs le mot n'existe pas en hébreu. En hébreu biblique, au profit de 5 à 6 appellations différentes qui sont toutes traduites par le même mot étranger, il y a toujours des problèmes de traduction. Commençons, je suis désolé de faire un peu d'éducation, par quelques définitions du Larousse. Un étranger est quelqu'un d'une autre nation, qui n'a pas la nationalité du pays où il réside, mais aussi qui n'est pas de même nature, de la même famille ou du même groupe. Et sans oublier d'ailleurs que cela vient du mot étrange, qui est en dehors de l'ordinaire, ce qui peut impliquer que la norme viendrait de l'ordinaire. Donc vous voyez déjà qu'on est complètement
se dessiner des perspectives qui sont effectivement
alors on peut avoir
à réfléchir.
On peut aimer l'étranger, ça s'appelle la xénophilie, et la faire passer l'étranger avant l'autochtone, par exemple, et on entend ça dans certains discours politiques de gens qui sont plutôt des xénophobes, car pour le xénophobe, c'est haïr l'étranger, lui reprocher tous les malheurs du monde, et en particulier le sien propre. Donc on est d'accord sur la définition, elles sont du Larousse. Paul Valéry a écrit « La question de la religion est de savoir si les morts sont vraiment morts. »
Oui, puisqu'on croit à la résurrection.
Et nos trois monothéismes y répondent positivement. Cela s'appelle la résurrection, ou la vie éternelle, ou encore le salut. Mais qui peut en bénéficier de la fin, finalement, notre devenir ? Quelqu'un comme moi, si j'y ai droit, ou un étranger ? Tiens, voilà le mot étranger. Le peuple juif a une longue expérience d'être un peuple étranger au sein des nations depuis 2500 ans. Ce n'est pas d'hier que nous sommes considérés comme des étrangers. N'avoir qu'un seul Dieu, et encore invisible aux yeux des polythéistes idolâtres babyloniens, perses, grecs ou romains, était vraiment étrange, voire même dangereux. Puis, pour ne pas avoir reconnu la divinité de Jésus, et enfin de ne pas avoir accepté Mahomet comme prophète. Jusqu'à ma propre naissance, fin 1940, où les lois variables des humains m'ont désigné à disparaître du pays où je suis né. J'étais un étranger. Voyons maintenant nos textes, quelques-uns de nos textes, mais très peu de textes, et comment nos sages et rabbins ont pu faire évoluer notre regard sur les autres. Il y a une évolution dans la pensée de l'étranger et la pensée de notre vie à partir des textes qui, eux, sont immuables. Et cette évolution, elle est tout à fait particulière à nos rabbins. La Torah, qui est notre histoire et code de vie, nous demande d'être prévenants avec les étrangers, ce qui est même apparemment plus important que de recevoir la présence divine, car nous-mêmes, nous avons été étrangers en Égypte. Le grand principe du Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui a été repris en moins 30 par le grand rabbin Hillel, ce qui n'est pas bon pour toi, ne le fais pas à ton prochain. La dixième parole, le dixième commandement, qui dit ne convoite pas ce qui est à ton voisin, etc. La grande question posée à nos sages devait répondre à la question du devenir du non-juif, donc celui qui était extérieur aux juifs, à l'étranger, et devait répondre donc à la question du devenir des non-juifs, car Dieu, dans sa grande bonté, ne les a pas créés, le monde entier, toutes les nations, pour les faire disparaître. Et parce que nous n'avons pas la charge de convertir le monde, mais de montrer les valeurs morales inscrites dans la Torah. Nous ne devons pas convertir les gens. Alors ils y ont répondu, nos sages, en indiquant... Alors, ils ont commencé à y répondre à partir de Judas Maccabée, donc en moins 150, et puis au fur et à mesure du temps, jusqu'à la clôture du Talmud dans les ans 500, et puis un peu plus tard également. Alors ils ont dit que jusqu'au don du Sinaï, les hommes devaient respecter depuis Noé ce qu'on appelle les sept lois de Noé, qui sont toutes passées dans le codex des peuples démocratiques. Les peuples démocratiques, c'est hors religion en quelque sorte.
Voilà.
Ces sept lois de Noé, que je vous lis très rapidement, l'obligation d'établir des tribunaux, donc d'avoir une justice avec un code, l'interdiction de blasphémer, donc abandonner les idoles, l'interdiction d'adorer les idoles, l'interdiction des unions sexuelles illicites, l'interdiction d'assassiner, l'interdiction de voler et l'interdiction de consommer un membre arraché à un animal vivant. En quelque sorte, on ne doit pas manger
respecter la vie, en gros. Respecter l'autre et respecter la vie.
Alors, respecter l'autre, respecter la vie des animaux. Et j'ai lu un commentaire sur ces sept dernières lois, un peu kabbalistique, qui dit que quand on doit égorger un animal pour le manger, parmi les animaux permis, eh bien, on va faire une bénédiction et, en quelque sorte, dire que Dieu nous a donné l'autorisation de l'égorger. On va utiliser la parole pour cela, Et ce qui distingue les hommes des autres espèces, c'est notre parole. Arracher un membre à un animal vivant, c'est ne pas lui causer, c'est régresser à la bestialité. Marquer sur un bras des numéros pour nommer les gens, ce qui se passait donc pendant la guerre, en particulier à Auschwitz, c'est le signe de la bestialité. Donc, j'en termine. Ils ont donc statué, pour pouvoir mériter le salut, que celui qui les respectait était injuste, ou encore plutôt qu'injuste, un sage des nations, et avait donc le droit au paradis à être sauvé, alors que les Juifs, ayant accepté les 613 commandements au Sinaï, pouvaient avoir beaucoup de mal à y parvenir. Par conséquent, il n'y a pas de différence entre un Juif et un non-Juif, il n'y a pas d'étranger. Le seul qui reste vraiment étranger, c'est l'idolâtre. Ainsi, autrui devient le prochain qu'on doit aider et qu'on doit aimer comme soi-même dans toutes les occasions, et pas seulement lorsqu'il est victime. Parce que si on aime son prochain que lorsqu'il est victime, eh bien il s'agit de paternalisme.
Voilà. Donc la relation correcte, c'est effectivement aimer son prochain comme soi-même, mais pas simplement quand il y a des questions extrêmement difficiles.
Voilà la position du judaïsme.
Par rapport à le paternalisme, j'ai découvert une chose, c'est un mot qui dit « tu dois l'hospitalité à l'étranger ». Et l'hospitalité, je trouve que c'est mieux que l'accueil, parce que l'hospitalité, il y a deux hôtes. Il y a celui qui reçoit, celui qui est reçu. Et on est reçu et recevant.
Celui qui reçoit, reçoit autant que...
Exactement, et je trouve que c'est intéressant de le voir comme ça, parce qu'il n'y a pas celui qui donne, et puis l'autre qui est toujours en train de recevoir, et qui est en dessous. Il y a une notion d'interaction. Et je trouve ça...
Mais dans bien des familles protestantes, peut-être pas que protestantes finalement, dans les Cévennes, à table, il y a toujours une assiette pour l'étranger qui peut venir, qui peut arriver sur place.
Alors justement, moi j'aimerais bien parler, là j'ai vu un document qui date de 1972, un document de l'Assemblée plénière des évêques de France, politique, église et foi. Ils disent « Il est clair que la Bible manifeste un certain nombre d'exigences éthiques qui sont tracées de façon tout à fait nette. Le respect des pauvres, la défense des faibles, la protection des étrangers, la suspicion de la richesse, la condamnation de la domination exercée par l'argent, l'impératif primordial de la responsabilité personnelle, l'exercice de toute autorité comme un service, le renversement des pouvoirs totalitaires, la vigueur mobilisatrice de l'Évangile contre les situations de défis et d'abus qui sont encore le lot de notre actualité, peut certes s'exprimer au travers de choix politiques différents. Mais aucun chrétien n'a le droit, sous peine de trahir sa foi, de soutenir des options qui acceptent, prônent, engendrent ou consolident ce que la révélation, tout comme la conscience humaine, réprouve. » Je trouve que c'était écrit en 1972. Donc je trouve que c'est encore largement d'actualité.
Oui, mais de toute façon, l'Évangile a été écrit en 60. Oui, mais en 70, c'est bien de rappeler, c'est encore largement d'actualité.
C'est bien de rappeler, oui, c'est bien de rappeler que quand même...
Et ce qui a été écrit dans l'Évangile est en grande partie écrit dans la Torah.
Exactement. Donc, moi, j'ai repéré les textes.
Absolument, oui, dans la Torah.
Donc, nous en sommes tous convaincus et nous poursuivrons peut-être cette réflexion dans une prochaine émission, parce que je crois que le sujet n'est pas épuisé et que on verra aussi du côté musulman, je pense qu'on a à peu près les mêmes, visions. Et en tout cas, cette question de l'autre, de son accueil, reste bien d'actualité. Chers auditeurs, eh bien, nous vous disons au mois prochain.
Égalité et respect dans le monde entier. De mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs, s'entraider, mais surtout s'aimer, main dans la main.